Bon, bah merci d'être venu déjà pour commencer. Merci à Olivia pour Bouffe ton Boulogne qui un an, voilà, on multiplie les événements et on est très content de continuer et ça va continuer. Donc merci aux Forges, je vais peut-être enlever ça parce que
oui,
on entendra mieux. Merci aux Forges de Vulcain et Guillaume Éclair. Donc bah voilà, est-ce que vous avez lu, est-ce que vous connaissez un peu les. Vous venez par hasard
Non, je crois que le premier roman, là, celui-ci,
ouais.
Et puis là, le premier aussi.
Tout à fait.
Donc, c'est tout récent, je veux dire, vous commencez, là.
C'est
ah oui,
ça.
On est au début.
On est au début de notre début carrière d'auteur.
Ça, c'était ton premier roman, Claire, ouais, et ça, ton premier roman, Guillaume.
Tout à fait.
Donc, c'est tout récent, donc je n'ai absolument pas.
Ouais. Donc là, vous vous lancez dans un cycle sur le long terme, parce que ça va s'étaler sur 3 ans, les parutions. Donc voilà, je vais vous poser la première question, puis après je laisserai peut-être aussi David, donc qui est le directeur, je sais pas, comment on dit, directeur des Forges
directeur,
de Vulcain.
Monsieur,
Forge. Monsieur Forge de Vulcain.
Monsieur Forge de Vulcain.
El patron.
El patron. Donc voilà, me laisser faire un dialogue, et puis bah, évidemment, vous intervenez quand vous voulez, vous posez des questions ou vous faites des remarques. Moi, le premier truc que je voulais vous demander, c'est voilà, un cycle de cette ampleur est construit de cette manière, c'est-à-dire que, voilà, on va avoir 3 romans qui vont se faire écho les uns les autres, chacun écrit séparément, c'est pas vraiment être du 4 mains, mais c'est voilà, c'est séparément.
C'est pareil, oui.
Ouais. Est-ce que vous avez d'autres exemples dans la littérature de ce genre de construction? Parce que des livres à 4 mains ou des sagas qui se font en plusieurs, on en connaît plein. Mais cette construction vraiment de un d'abord l'un puis l'autre avec des échos, des réponses. Est-ce que vous avez d'autres est-ce que vous avez été inspiré par d'autres œuvres dans la littérature?
Non, pas vraiment en fait, on n'a pas trouvé de choses un peu équivalentes, ou alors plutôt dans le domaine du comics en fait, avec la notion d'univers partagé, où pour le coup l'univers existe et différents scénaristes vont faire plusieurs arcs scénaristiques qui vont se dérouler dans le même univers.
D'accord.
Donc c'est peut-être plus ça l'inspiration. Après je sais que des œuvres à 4 mains qui se répondent comme ça, ou à plus de mains encore, je sais qu'en jeunesse ça s'est fait
en jeunesse, voilà.
4, ouais. Par exemple.
Et il y a eu aussi une expérimentation avec Éric Lhomme et Pierre Bottero, mais qui malheureusement n'est pas arrivé à son terme parce que Pierre Bottero est décédé avant. Ouais. Enfin, je crois qu'Éric Lhomme a terminé tout seul, mais effectivement. Ouais. Mais c'est vrai qu'en littérature, que ce soit en imaginaire ou en littérature entre guillemets adulte, on n'a pas d'exemple qui nous soit venu en tête sur ce type de construction.
Mais en somme, tout ce qui est écriture collaborative, ça, c'est moins répandu, en tout cas en France, en fait, que ça peut l'être dans d'autres pays ou dans d'autres. Ou dans d'autres médias, type la bande dessinée ou des choses comme ça.
Ouais, que je pense à l'œuvre de Corrèze, The Expanse, où effectivement c'est un pseudo, donc ils sont deux.
Si, ils sont deux.
Mais il y en a un plus un, j'ai l'impression, qui construit la narration et l'autre qui,
et l'autre qui fait la réécriture.
Donc là, il y a voilà, c'est deux phases différentes. Vous êtes vraiment, vous créez chacun de votre côté, vous confrontez et vous écrivez séparément.
C'est ça. L'idée, c'était aussi d'avoir, donc, bah, on a un même univers où on sait que les deux villes, donc la capitale du Nord et la capitale du Sud existent. On écrit chacun sur un narrateur qui se trouve dans une des villes, en faisant des ponts, évidemment, narratifs entre les différentes œuvres. Mais on a essayé vraiment de faire en sorte que chaque auteur garde sa propre voix, en fait, et sa propre manière de s'approprier sa ville.
Ouais. Et que chaque trilogie soit indépendante en fait, finalement. On peut aussi ne pas lire l'autre, c'est un peu dommage parce qu'il y a plein de petits clins d'œil, mais ça reste quand même une histoire en soi qui est indépendante.
D'accord. Et ça, enfin, pas de spoil évidemment, mais ce sera valable jusqu'au bout, parce qu'on sent qu'il y a des liens qui se tissent.
Ce sera valable jusqu'au bout.
D'accord.
C'est la difficulté même un peu des tomes 3, on va dire.
Et encore plus au bout, puisqu'effectivement les intrigues elles vont se rejoindre
voilà.
En fait.
Les intrigues se rejoignent
vous
vraiment.
Choisissez sur quoi vous allez vous consulter justement pour faire ces petits clins d'œil, comment ça se passe au niveau du travail d'écriture, est-ce que...
Y a une part qui est calculée, qui est prévue, et une part qui se présente d'elle-même, en fait, au fur et à mesure de l'écriture. Donc après, on se fait lire au fur et à mesure, genre, bah écoute, j'ai pris tel personnage, à toi, ça va...
Vous faites la lecture quand même.
Oui, en fait, on fait en premier lieu donc les grandes lignes de chaque roman, en fait.
D'accord.
Avec à chaque fois, on fait lire à l'autre, évidemment, le résumé du roman qu'on va écrire. Avec à chaque fois, on met, là, il va y avoir une interaction, là, il va se passer quelque chose. Là, j'ai tel personnage qui va aller dans ta ville, donc si tu veux l'utiliser, il va y être de telle date à telle date, entre guillemets. Et en fait, et au fur et à mesure aussi, donc on fait ça, et puis au fur et à mesure, évidemment, il y a toujours des idées qui nous viennent pendant l'écriture. Donc on se fait lire tous les chapitres à peu près, tous les chapitres ou tous les deux chapitres, pour qu'on puisse ajuster au fur et à mesure et fignoler, faire en sorte que tout se tienne complètement.
Et parfois on a l'impression d'avoir une super idée, ou commencer à écrire en disant ça, mais non, mais en fait je vais le faire mourir bientôt, donc on peut pas, et tout, voilà. Donc on réajuste, écoute je vais prendre un autre, et voilà quoi.
Alors, du coup, quelle est la dose de planification au niveau scénario sur les 3 tomes? Est-ce que tout est carré, ou alors justement vous faites du... Du fur et à mesure, un peu d'impro.
C'est plutôt carré quand même.
Aujourd'hui, après, voilà, en plus, aujourd'hui, tout est particulièrement carré, ouais. Puisqu'on sait exactement la fin. En fait, on a déjà des premiers jets des tomes 3. On sait où on va.
Les tomes 2 sont rédigés, ça y est, c'est bon.
Les tomes 2 sont rédigés.
Je me tourne vers mon éditeur.
Voilà. Et tome 3, il y a des premiers jets déjà, donc on sait exactement où on va. On sait comment ça va se terminer. Il n'y a plus que les détails à ajuster.
C'est un travail de combien de temps?
Alors,
2018, je crois, à l'été
2018, on a commencé à écrire à l'été 2018. C'est ça, ouais, donc courant de l'été 2018. On a présenté à David, on a dû t'envoyer les textes fin 2019. Hein, ouais. Où là, on avait l'équivalent, mais ça a beaucoup changé depuis, on avait l'équivalent de 4 romans quand on est allé voir David avec le sujet. Mais c'était 4 romans où on ne savait pas encore que c'était 4 romans, ça aurait pu être 2 très longs romans. On ne savait pas encore qu'on allait les couper en 2, on ne savait pas encore que ça allait être des trilogies. Enfin, donc voilà. Donc on les a beaucoup retravaillés depuis pour que ça soit vraiment. Pour coller à un rythme de parution et que ce soit des ensembles cohérents. Et là, on a terminé les premiers jets, entre guillemets, mais il y a encore du travail dessus, des tomes 3 à la fin de l'été.
Ok. Et David, qu'est-ce qui t'a convaincu quand ils sont arrivés vers toi avec ce projet qui est, à ma connaissance, atypique déjà dans le monde littéraire, mais aussi chez les Forges, qui ne fait pas vraiment de saga en général?
Non, mais alors, il y a plusieurs choses. C'est que d'une part, quand j'avais publié le premier roman de Claire, Un long voyage, ça avait été une fantastique expérience de travail intellectuel, la réception du texte aussi avait été très très bonne et continue d'être très très bonne. Donc un jour, elle est arrivée en disant... non, je lui ai demandé, alors c'est quoi le prochain texte? Et elle m'a dit, c'est un texte, je l'ai un peu conçu avec mon compagnon. Et là, j'ai eu un tout petit peu peur.
C'est le cauchemar d'un éditeur, voilà, il faut le savoir.
Après, Claire, devinait que ça pouvait être un peu surprenant, parce que on va dire que souvent, on manque de lucidité sur le talent des gens qui sont proches de nous. Mmh. Voilà. Soit, alors,
comme c'est bien dit.
Non, mais parfois, on est excessivement cruel. Non, c'est dans les deux sens. Parfois, je connais des gens qui sont excessivement cruels avec leurs proches, alors que leurs proches ont un vrai talent, et parfois, ils sont un peu trop complaisants. Et donc, j'avais un peu peur. Et puis, les textes sont arrivés, je les ai trouvés géniaux. Mais c'était aussi l'occasion de rencontrer davantage Guillaume, d'apprendre à le connaître. Parce qu'il faut d'abord être convaincu par un texte, et après être convaincu par la personne. Parce qu'il y avait aussi cette idée de leur faire confiance pour la suite. Parce que le danger, la raison pour laquelle moi je fais pas de saga normalement, c'est que d'une part, Les Forges, c'est une maison qui fait de l'édition raisonnée. Donc on fait que 10 titres par an, et ça va rester 10 titres pendant encore pas mal de temps normalement, parce que comme ça, ça me permet de tous les suivre. Si je prends une saga, ça veut dire que ça va prendre des mois dans mon programme qui ne seront pas pris par d'autres textes et d'autres auteurs. Donc c'est un engagement très fort. Donc c'est pour ça que j'hésitais à le faire. Et l'autre chose aussi, c'est que très souvent, j'ai vu beaucoup de sagas qui se sont arrêtées en cours ou dont les auteurs n'ont pas compris qu'en fait, à chaque volume, il faut franchir un pas esthétique et intellectuel. Et savoir que des auteurs sont capables de franchir ce pas, c'est-à-dire que la saga va en montant et pas avec un grand pic et après ça déroule et ça finit au fond de la vallée, c'était difficile. Et en fait, les discussions... Alors j'étais déjà très en confiance avec Claire, mais la lecture du texte de Guillaume et après la rencontre avec Guillaume m'a convaincu qu'on était parti sur un grand truc. Et fondamentalement, c'est quelque chose d'un peu magique aussi, c'est que ça colle parfaitement avec les Forges. Parce que ça s'appelle les Forges de Vulcain, parce que c'est une maison qui valorise beaucoup l'artisanat, et ça s'appelle pas Vulcain, mais les Forges de Vulcain, et une forge, c'est quelque chose de collaboratif. C'est-à-dire, on parle souvent du forgeron, sauf que dans une forge, généralement, on n'est pas tout seul, parce que la plupart des objets, on ne peut pas les faire tout seul, en fait. Et initialement, les Forges, c'est l'émanation d'une troupe de théâtre qui faisait de la création collaborative, une troupe de théâtre étudiante qui s'appelait le Tiers Théâtre. Donc c'était... moi, j'ai toujours considéré que... la mythologie qu'on a autour de l'écriture comme étant quelque chose qu'on doit faire seul dans la nuit, dans la clandestinité, voire dans la dépression et la souffrance et l'isolement, ça fait partie d'un mythe, mais comme certains mythes, c'est une illusion complète. Et rencontrer enfin des auteurs qui sont ambitieux, précis, poussés par une profonde sincérité, mais dans quelque chose de collaboratif, c'était un peu inouï. Et Et ça, ce qui fait que ça colle parfaitement avec les forges. C'est, voilà, tout à l'heure, on a parlé des modèles. Effectivement, moi, par exemple, dans ma formation d'éditeur, la lecture de la bande dessinée américaine et le travail des éditeurs de bande dessinée américaine dans les années 60-70, parce que maintenant, il est assez documenté, c'est quelque chose qui m'a beaucoup formé. Et effectivement, la notion d'univers partagé... Alors, en fait, on appelle ça univers partagé que depuis une quinzaine d'années à cause des films Marvel. Mais en fait, les bandes dessinées Marvel fonctionnent comme ça depuis les années 60. C'est-à-dire, il y a une sorte d'éditeur qui va aider des auteurs à se coordonner de manière à ce que dans leurs différentes publications qui sont en parallèle tous les mois, il va y avoir des interactions. Alors, initialement, c'est vraiment quelque chose de très commercial. C'est-à-dire, c'est pour que les gens qui lisent Spider-Man se mettent à lire les 4 Fantastiques. Et voilà, c'est vraiment pour ratisser, ce qui n'est pas notre cas. Alors, dans l'édition, il faut vendre du livre pour continuer à faire du livre. Mais là, c'est plutôt parce que ça répondait à un vrai projet intellectuel et artistique. Et en fait, la manière dont ils l'ont fait, je trouve ça très intéressant parce que... Je parlais du mythe de l'écriture en solitaire, et voilà, mais c'est un mythe qui a aussi quelque chose de vrai. C'est que souvent, l'écriture, ça repose quand même sur l'expression d'une singularité. Et souvent, dans les écritures à plusieurs, on va gagner en technique, en une œuvre écrite à deux, vraiment, où les deux personnes rentrent dans le texte. Elle va souvent gagner en sérieux dans sa construction, mais elle va souvent perdre en expressivité littéraire. Voilà, je pense, par exemple, ces écritures à quatre mains, il y en a eu beaucoup dans la science-fiction, où il y avait, par exemple, Rama, Arthur C. Clarke fait un grand plan avec des personnages, dit faut qu'il se passe ça, et derrière, il y a quelqu'un qui écrit le page à page. Mais ça fait que le page à page est très direct, c'est pas mauvais, mais c'est pas passionnant. Et là, ce que j'ai trouvé fantastique, c'est que les deux romans, les deux trilogies, sont... l'expression de singularité très particulière, c'est-à-dire qui reflète le fait que Claire et Guillaume, c'est des grands lecteurs, mais pas les mêmes lecteurs. C'est-à-dire que le sang de la cité, le premier roman de Guillaume, pour moi, je le vois comme une contribution à la grande histoire du roman d'aventure, ou le genre du roman d'aventure. Donc il y a un côté très Alexandre Dumas, voilà. Et Claire, il y a un côté plus roman d'éducation. Voilà, alors justement, en venant ici, j'avais une question pour toi, c'est que je me suis rendu compte, personnage féminin au sein de la noblesse, qui, avec l'énonciation à la première personne, est-ce que tu es une grande lectrice de Jane Austen ?
Voilà. Pas du tout.
Pas du tout, ok, mais voilà. Donc question posée en live, mais... mais parce que en fait, je cherche... un comparant, parce que je trouve qu'Alexandre Dumas, c'est un bon comparant pour Guillaume. Je cherche des comparants pour toi. Alors,
il faut
je me disais.
Un comparant qui soit un homme, c'est pas problématique. Hein, parce
que, non, mais.
Je sais que généralement, on essaie toujours de m'accrocher à des autrices parce que je suis une femme. Enfin, c'est pas obligé.
Ah non, mais sinon, c'est Dickens, tout simple. C'est Dickens sans le côté misérabiliste.
Sans le côté misérabiliste, oui, voilà. C'est ça.
Enfin, Dickens n'est pas misérabiliste
non,
tout à fait, mais oui,
mais
voilà.
Ses héros sont...
Il y a un petit côté mélodramatique, voilà.
Toujours un peu dans le caniveau.
C'est ça. Mais. Et voilà, c'est pour ça que moi je trouve ça fantastique, parce que comme il y a quand même cette singularité des voix, on est certes dans des romans de divertissement, mais qui vont beaucoup plus loin que le roman de divertissement, c'est-à-dire c'est parce qu'ils ont une vraie qualité littéraire, une vraie, c'est vraiment des visions sincères du monde, c'est des livres qu'on a envie de relire après, et voilà. Donc c'est pour ça que pour moi c'était un projet parfait pour les Forges, j'en suis très fier. On a eu beaucoup de chance que les lecteurs, les lectrices, les libraires, les bibliothécaires adoptent ce projet, montent dedans, parce que c'est pas facile non plus de se dire qu'on part dans quelque chose d'assez long. Mais après, il y a aussi cette idée, et je sais plus si c'est pas clair qu'il l'a mentionné la première fois, c'est que quand on a décidé ce rythme de publication, c'est-à-dire les romans de Guillaume sortent en avril, les romans de Claire sortent en octobre, pendant 3 ans, il y a un côté roman feuilleton. Je ne sais pas si c'est toi la première qui l'a mentionné, mais c'est-à-dire
dès le début,
ranimer.
Ouais. Dès le début, c'était l'idée qu'on avait en fait de ranimer le côté feuilletonnant fait, de la littérature populaire tel qu'on a pu voir, tel qu'il est né au début du XXe siècle en fait. Et du coup, on a vraiment fait en sorte de mettre des petits détails dans les textes pour faire ça. Il y a le premier chapitre du texte suivant à la fin de chaque...
Ça permet aussi de les faire fonctionner ensemble, même si effectivement, c'est des textes indépendants. À la fin de chaque tome, on a le début du tome suivant de l'autre, en fait, de la prochaine
page. Et puis...
C'est écrit, carrément.
Complètement écrit.
Là, le prologue de Trois Lucioles qui va paraître en avril.
Ouais, il y a 7-8 pages, entre guillemets, pour donner, pour être ses limites, presque le côté série télévisuelle, où on a le next week, la semaine prochaine, etc. Et on va faire de la même manière dans les tomes 2. Je cherche la confirmation de mon éditeur, mais normalement c'est acté. un petit résumé en fait de l'épisode précédent entre guillemets au début du tome 2. Voilà. Donc comme ça permet de rappeler même, aussi aux gens.
Ça peut être un peu décourageant. Enfin, en discutant en festival avec les gens, souvent c'est un peu décourageant le côté. J'aurai la suite que dans très longtemps, donc je l'achète, mais je vais pas le lire tout de suite et tout.
Mais même si, enfin.
Ouais, voilà, oui, ouais, vous empêchez pas de le lire parce que de toute façon, quand la suite va sortir, vous aurez un résumé avec tous les enjeux qui seront repris, donc vous n'allez pas être largué, quoi.
Ça, c'est bien, parce que c'est vrai qu'on est tous des gros lecteurs ici, donc c'est vrai que je vais avoir la suite du Sang de la Cité, ce sera un an après.
Bon, dans 6 mois, du coup.
Maintenant, dans 6 mois, mais du coup, je l'ai lu il y a 6 mois. Mais c'est vrai qu'on on a tendance à oublier, perdre un peu les détails, surtout qu'entre-temps, on a lu Le Citadin de demain. Donc, le résumé, c'est parfait pour ce genre de littérature, pour justement nous remettre dedans.
Ça, on va le mettre en avant, parce qu'effectivement, je sais que c'est une attente des lecteurs.
Ouais, c'est ce qui manque dans certaines grosses séries qui, parfois, ont des rites de parution encore plus longs. Et c'est vrai que quand on le reprend, on fait « Alors, je sais que j'ai aimé, mais j'en étais où, quoi ?»
Ah bah, je pense que sur Game of Thrones, quand les deux derniers volumes sortiront,
s'ils sortent,
moi, je me souviens plus des 3 et 4 américains. Mais sur... tout à l'heure, on parlait comics. Le comics, c'est du roman populaire feuilletonnant, quoi. Ouais. C'est-à-dire avec une sorte de gros cliffhanger à la fin de chaque... ce que je trouvais toujours fantastique, les comics, en fait, c'est 22 pages par mois. Et ce que je trouvais toujours fantastique, c'est que la dernière page, c'est une pleine page avec un rebondissement. Et y a aussi ça dans vos romans. Y a un sens de l'intrigue, du rebondissement, alors à l'intérieur du volume, mais surtout, vos deux volumes finissent sur des gros cliffhangers quand même.
Justement, je voulais aborder, vous avez évidemment, c'est vous, vous avez des constructions assez parallèles, avec à chaque fois un personnage qui est intégré dans la cité, mais qui à la fois la découvre, qui va découvrir aussi du coup ce fameux mystère surnaturel. Et effectivement, dans les deux livres, on a des montées en puissance avec justement des cliffhangers. Par exemple, celui du Sang de la Cité, je me le suis pris dans plein visage parce que je ne l'avais pas vu venir. Donc ça, j'imagine que vous vous êtes consulté aussi en termes de progression, de rythme et de courbe.
Alors même pas forcément, en fait, pas tant que ça. C'est arrivé un petit peu naturellement parce que de toute façon, les récits sont... Enfin, c'est un récit dans des villes imaginaires, donc qui n'existent pas. On est obligé de faire une exposition qui présente les villes. Donc alors après, on a fait en sorte que l'exposition reste dynamique, qu'il y ait une découverte par les yeux du lecteur. Le choix d'écrire à la première personne et d'avoir vraiment cette découverte de la ville par les yeux du narrateur, ça permettait aussi de s'immerger complètement et de la faire découvrir au fur et à mesure. Et après, effectivement, il y a toujours ce moment où il faut quand même lancer l'histoire. Et du coup, forcément, on a un rythme qui va crescendo jusqu'à une explosion finale, entre guillemets. Je pense que c'est plus parce qu'on avait la même vision, entre
on
guillemets, la même manière.
On est parti sur le même schéma, en fait, roman.
Ça s'est fait de manière très, très naturelle.
Ça s'est fait de façon naturelle. Il y a beaucoup de choses qui ont été très calculées et d'autres qui, naturellement, sont... Enfin, des parallélismes qui sont arrivés de façon plus naturelle.
Oui, qui sont arrivés vraiment de façon naturelle. Et qu'évidemment, quand on a retravaillé les textes, quand on a vu que ça allait se faire en trilogie, on s'est dit, on va accentuer ces côtés-là. Parce que c'est ça aussi qui fait... il faut que les textes se fassent écho. Ouais. Et ça en fait partie aussi, en fait. La structure en fait partie.
Moi, j'avais une question pour Claire. Parce que je sais que tu es multicasquette, dans le sens où tu écris, mais tu édites aussi, tu es éditrice. Et en plus, tu as travaillé avec ton compagnon. C'est beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'il y a le côté à la fois personnel, professionnel, l'exigence qu'on a en tant qu'éditrice. Et là, on se retrouve devant un éditeur qui a aussi peut-être ses exigences différentes, je ne sais pas. Comment tu...
Je ne suis pas intervenue en tant qu'éditrice sur le texte de Guillaume. Je suis intervenue en tant que co-autrice. Donc en disant, là, on pourrait faire un parallèle avec ceci, cela, là, on pourrait... Mais pas du tout en tant qu'éditrice, je n'ai pas touché au...
C'est difficile de faire la part des choses, t'as pas des réflexes, des fois, un peu, en te disant...
Oui, j'ajoute des virgules, quoi, comme les éditeurs font, mais ça s'arrête là, quoi, c'est pas...
Ça s'arrête là.
On a déjà travaillé sur des textes avant, où pour le coup, j'avais vraiment plus un œil d'éditrice, peut-être plus interventionniste, mais là, pour le coup, l'idée, c'était que, comme chaque trilogie doit vraiment avoir sa voix aussi, c'est de préserver complètement la voix de Guillaume telle qu'elle est. Et que tous ces changements-là, s'il devait y en avoir, ça passerait plutôt par David, en fait.
Mais après, de ce côté-là...
Pour pas lisser entre les deux, quoi.
C'est-à-dire, on pourrait se dire théoriquement que éditer une éditrice, c'est s'exposer à des difficultés. Et en fait, au contraire, ça a rendu les choses beaucoup plus faciles, parce que je pense que... Mais tu complèteras ou tu corrigeras, Claire, c'est que Je pense que Claire, cette, enfin, elle s'est dit elle-même peut-être qu'elle aime bien quand elle travaille avec ses auteurs, que les auteurs respectent son travail et l'écoutent. Et donc, ça a été sans doute l'autrice la plus facile de l'histoire des Forges. facile, ça ne veut pas dire que la personne accepte tout. Ça veut dire que si elle n'est pas d'accord, elle le formule de manière intelligente. On n'est pas dans une relation de pouvoir où je fais des caprices, mais vraiment de dire « Non, David, je pense que tu te trompes pour cette raison. » Et moi, je suis aussi capable de l'entendre. Donc, on a très, très bien travaillé. Après, c'est aussi une question plus générale sur les rapports entre éditeurs et auteurs. C'est au sein du catalogue des Forges, il y a pas mal d'auteurs qui sont très professionnels dans l'écriture. Que ce soit des auteurs qui sont des vrais professionnels de l'écriture, donc il y en a qui sont scénaristes de cinéma ou de télévision, ou tout simplement que ce soit des gens qui ont une approche... alors, c'est pas professionnel, c'est plutôt artisanal, c'est-à-dire que on est concentré sur le texte, la construction, des questions concrètes, c'est-à-dire... et c'est des relations assez simples, en fait, finalement, qui sont... parce qu'on se rapporte à un objet précis, et c'est toujours le côté, bah, ça s'appelle les Forges de Vulcain, parce que Vulcain, c'est le patron des artisans, voilà. Donc, moi, j'ai adoré travailler avec Claire. Alors, Guillaume, j'ai aussi adoré travailler avec Guillaume.
Ah bah, merci.
Voilà. Guillaume, c'est un peu plus petit.
Guillaume, il est un peu...
mais Guillaume, il travaille vaguement dans l'édition, mais pas du tout dans un poste éditorial, c'est très lointain, et il a vraiment complètement assumé le fait d'être auteur, donc qu'on est en collaboration, qu'on essaye d'avoir une relation équitable. Voilà. Et comme Claire est aussi éditrice, elle sait que je ne suis pas disponible tout le temps, et voilà, et elle ne s'énerve pas, et on n'a pas des relations d'auteur qui est crispée parce qu'il n'y a pas de réponse dans les 15 minutes ou des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est très agréable. Mais après, tu disais tout à l'heure, tu rappelais quelque chose d'important, c'est que c'est des romans sur des villes, et ça permet peut-être de rentrer un peu plus dans le corps du texte. En vous écoutant, je me faisais une réflexion, c'est que j'ai tendance à parler de ces romans comme des romans d'éducation, un roman d'aventure, un roman d'éducation. Et en fait, je vais vous soumettre une théorie que je viens d'avoir dans les 15 dernières minutes. Donc, peut-être qu'elle est complètement foireuse.
Okay.
C'est qu'en fait, dans les deux cas, c'est des personnages qui sont des adolescents, jeunes adultes. Un garçon, dans le cas du sang de la cité, une jeune femme dans le rôle de dans Citadin de demain. Et en fait, il ne faut peut-être pas accentuer la différence entre les deux romans, dans la mesure où je pense que la ville du sang de la cité, c'est une ville qui repose beaucoup sur les rapports de force. C'est-à-dire les gens entre les quartiers, entre les classes sociales, même au sein des familles, ils sont dans du rapport de force. Donc l'éducation, ça passe toujours par une relation externe de pouvoir, et donc ça va vers l'aventure, ça porte vers l'aventure. Et à l'inverse, la cité de De Haven, qui est la cité de Citadin de demain, c'est une cité qui est beaucoup plus évoluée dans une sorte d'évolution morale et politique, qui est beaucoup plus structurée, qui n'est pas dans le rapport de force primordial.
Le rapport de force existe, mais il est étouffé, caché sur une espèce de vernis de civilisation.
Mais il est aussi à l'intérieur des individus. Ouais. C'est-à-dire la ligne de force, parfois, parce que tes personnages...
Il est complètement intégré.
C'est ça. Tes personnages, en fait, ils sont à la recherche d'une sorte de perfectionnisme moral. C'est-à-dire, ils sont... la ligne de démarcation se passe à l'intérieur vraiment d'eux-mêmes. Donc en fait, les deux sont des romans d'éducation, sauf que comme ils sont situés dans des villes complètement différentes, l'éducation prend une forme complètement différente. C'est-à-dire que l'éducation d'un jeune homme ou d'une jeune femme dans cette ville, c'est vraiment se débrouiller, savoir comment s'en sortir, avec qui bien s'entendre, comment créer un réseau de pouvoir, comment se protéger, avoir des protecteurs, voilà. Qui est mon ennemi, qui est mon ami. Et dans celui de Claire, c'est vraiment de l'ordre de l'élévation morale, c'est-à-dire quelles sont les compétences que je dois posséder, quelles sont les règles que je dois suivre, voilà. Est-ce que c'est une description à laquelle vous souscrivez, Claire ?
Je pense qu'effectivement, pour le personnage que tu dis, oui, pour les personnages en l'occurrence, peut-être pas pour tous les habitants de la ville, mais pour les personnages, et particulièrement le personnage de la narratrice, c'est ça, c'est... un côté, effectivement, où tout ce qui est rapport de force est très intellectualisé sur comment faut-il se comporter dans telle situation, quel lieu puis-je visiter ou ne pas visiter. Après, c'est justement, on n'a que le point de vue de la narratrice, du fait que ce soit un roman écrit à la première personne, et le lecteur va découvrir un petit peu plus la ville au fur et à mesure, et va voir qu'en fait, les rapports de force qui sont cachés pour quelqu'un de son âge et de sa classe sociale, en fait, sont apparents et existent dans d'autres strates de la population, quoi. Donc ça, c'est une découverte qu'elle va continuer à faire dans les tomes suivants.
Oui, parce qu'effectivement, c'est un trio d'amis où deux des amis, la narratrice et son meilleur ami, sont issus de la classe dominante. Mm-hmm. Mais par contre, ils ont un troisième ami qui est une sorte de transfert de classe.
Voilà, ouais. Qui est une sorte de parvenu, on va dire, qui effectivement accède à la même éducation qu'eux. Donc pour ces deux jeunes nobles, finalement, ça va être une espèce de vision du monde assez incroyable d'avoir quelqu'un qui ne vient pas de leur classe sociale, alors que rien ne les amenait à fréquenter de façon aussi proche quelqu'un comme cet ami-là, quoi. Et ça va un peu les aider à remettre en question certains grands principes de leur éducation.
Alors, une autre question, mais alors vraiment, comme tout ça est fait sans préparation, en mode impro, voilà, vous pouvez me dire voilà, que la question est complètement à côté de la plaque. C'est quelque chose que j'avais beaucoup apprécié chez toi, Claire, dans le premier roman, le deuxième roman, mais c'est aussi quelque chose qui apparaît chez Guillaume, c'est qu'en fait, vos romans ont des propos très riches, des propos politiques, mais qui n'apparaissent jamais ouvertement comme politiques. C'est-à-dire, on est toujours dans la littérature, dans le récit, dans l'aventure. Mais est-ce que vous avez des... Est-ce que tout ça, ça vous vient de manière intuitive, voilà, ou est-ce que vous avez vous êtes aussi nourri par de la non-fiction, c'est-à-dire des essais particulièrement qui vous ont accompagné pendant que vous écriviez?
Moi, je suis très peu nourrie par la non-fiction, je lis pratiquement que de la fiction. Après, voilà, on a des valeurs morales,
on lit une certaine presse, voilà, entre guillemets,
des choses propres, très... Donc forcément, ça exude un peu dans nos romans, mais nous, notre idée, moi, je n'ai pas le niveau intellectuel pour conceptualiser des choses politiques, et puis ça ne m'intéresse pas, en fait. Ce qui m'intéresse, c'est d'écrire des romans. Après, effectivement, je pense que oui, on peut aussi voir certaines valeurs qui sont véhiculées dans ce roman et qui sont effectivement les miennes. Mais écrire vraiment un roman ouvertement politique, je ne me vois pas faire ça, en fait.
On ne peut pas écrire des pamphlets, on n'est pas légitime pour le faire, on n'est pas... voilà. Mais néanmoins, effectivement, évidemment, alors en plus, ce qui est intéressant, c'est justement de se placer du point de vue de ces jeunes personnages qui découvrent finalement ce que sont les enjeux, des enjeux, tu dis politiques, mais c'est aussi quelque part des enjeux plus humanistes, en fait. Mmh. Cette espèce de côté, ce sont deux personnes qui sont... assez naïve parce qu'elle découvre le monde, et c'est un peu l'idée du roman d'apprentissage, et qui effectivement, à qui il arrive des événements et qui réagissent en fonction de qu'est-ce que ça devrait être, enfin comment est-ce que ça devrait se passer, pourquoi est-ce que c'est injuste, et qu'est-ce que je peux faire pour y remédier. Donc évidemment, nous on a intégré le côté oui, on aimerait faire passer des valeurs à travers ces personnages, mais à aucun moment on essaye de dire que c'est un pamphlet politique.
Oui, non, mais en fait, c'est-à-dire que ça serait bien malin la personne qui pourrait repérer quelle est éventuellement la non-fiction qu'aurait... Moi, j'ai rien repéré dans vos textes qui me donnerait un indice dans quelle direction. Mais par contre, c'est vrai que ce que je trouve passionnant, c'est qu'en fait, vous reprenez à nouveau frais des questions philosophiques très classiques. Alors, lors d'une précédente rencontre, ça m'était apparu pour la première fois, c'est que... tous ces romans font partie d'un grand projet qui est le cycle de la Tour de Garde, et je trouvais que finalement ça reposait à nouveau frais la question de Platon sur quand on doit créer une nouvelle société, qu'est-ce qu'on fait des enfants, est-ce qu'on recommence à zéro, c'est-à-dire on prend les enfants, on les retire à leurs parents, on les met dans un nouvel environnement, et par exemple, est-ce que, sans trop nous dire la suite des romans, mais est-ce que c'est ça finalement le cycle de la Tour de Garde, c'est-à-dire que vos personnages ils grandissent dans des villes, ces villes vont petit à petit s'effondrer, où c'est l'impression qu'on a en lisant les premiers romans, on se demande si ce qui va se passer, est-ce que c'est une réflexion sur ça aussi, c'est-à-dire, et là vraiment une réflexion, pas de non-fiction, mais une réflexion en tant que romancier sur...
Sans que ce soit vraiment voulu le thème principal, je dirais qu'effectivement on a affaire à des personnages, on va dire, dont les adultes environnants, parents ou équivalents, on va dire, vont compter sur leur éducation pour les aider à faire perdurer la ville, à faire perdurer certaines valeurs, à faire perdurer certaines structures sociales. Donc Nox à Gemina, parce qu'on le forme pour un certain rôle au sein de sa famille, de son clan, on va dire, et Amalia, parce que ses parents ont des idées très arrêtées sur comment éduquer les enfants pour qu'ils deviennent les citadins de demain, d'où le titre. Mais le fait est que si ça se passait exactement comme ces personnages l'avaient prévu, enfin, ce serait pas très très amusant, mais c'est qu'effectivement toutes ces attentes elles vont s'effondrer justement parce que bah, la situation géopolitique des villes est beaucoup plus complexe qu'il y paraît au premier abord, et que tous ces grands plans qu'on peut avoir sur l'éducation des enfants, finalement une fois que c'est confronté à la réalité,
ça ne peut que s'effondrer.
Ça ne peut que s'effondrer de toute façon, bah, ne serait-ce que parce que ces enfants, en l'occurrence les jeunes gens, c'est leurs propres individualités. Enfin, au bout d'un moment, quand on crée des humains, il ne faut pas s'étonner qu'ils bah, agissent de façon humaine et pas forcément comme moi, sa mère, je m'y serais attendu, quoi. Donc c'est un peu aussi des espoirs qui peuvent être un peu déçus aussi. Enfin, Nox, pareil, il ne va pas vraiment accomplir la destinée qu'on avait conçue pour lui de la manière que le duc qui avait tout conçu l'entendait, quoi.
Oui, mais c'est aussi, à mon avis... On parlait tout à l'heure de certains types d'autres récits feuilletonnants. Un type de récit feuilletonnant qui a un immense écho depuis une quinzaine d'années maintenant, c'est les séries télé. Et moi, j'ai l'impression, en tant que spectateur de certaines séries télé, que les bonnes séries télé sont les séries télé qui sont portées non pas par l'intrigue, mais par les personnages. C'est-à-dire c'est les personnages qui sont moteurs. Et c'est vrai que pour quitter un niveau un peu abstrait, politique, moral, humaniste, et revenir au niveau narratif, c'est que ce que je trouve fantastique dans le roman, c'est que c'est les personnages qui sont moteurs de l'action. Tu dis qu'il leur arrive des choses, effectivement, mais tout de suite, ils réagissent, et c'est avec parfois... parfois, ils se trompent. Ils partent dans la mauvaise direction.
Ouais, ils se trompent, évidemment, voilà. Ils n'ont pas la science infuse. Hein.
Ouais. Mais c'est justement ça qui est très vraiment. Mais alors, quand... comment... Moi, je me souviens de quelque chose que disait Ursula Le Guin. Elle disait... donc, la romancière américaine, elle disait... d'abord, j'ai une idée très abstraite en disant... c'est dommage, il n'y a pas de grand roman sur l'anarchisme. Donc elle se met à ruminer. Puis après, elle rumine des personnages. Et elle disait, le jour où j'ai les personnages que je les ai bien en tête, c'est là où je peux écrire. Et c'est pour ça que les romans de Le Guin ne sont pas complètement des romans à idée. C'est des vrais romans portés par les personnages qui sont très nuancés comme ça. Vous, les personnages, ils préexistaient dans votre tête. Ils sont vraiment très, très attachants, en fait. Je pense que c'est ça qui... fait qu'il y a cette attente sur les 6 volumes parce qu'on sait qu'on va vivre leur vie, on va la suivre. Ils étaient dans votre tête, ils sont apparus petit à petit au fil de l'écriture.
Ils sont chacun l'émanation de la ville, en fait, de leur ville. Ouais. Comme les villes sont différentes, du coup, c'est pour ça que c'est des personnages aussi complémentaires ou opposés, selon la façon dont on voit les choses.
Bah, je suis... En fait, c'est ça. Alors, tu parles des personnages principaux, enfin des narrateurs. Oui. Je vais déjà parler de ça et ensuite élargir un petit peu. L'idée, voilà, bah, comme dit Claire, c'était que chaque personnage soit une émanation de sa ville et quasiment une représentation de sa ville. Donc effectivement, on a une cité qui est très inspirée de Sienne en Italie. Donc on a un personnage, un narrateur qui est extrêmement chaleureux, qui est solaire, enfin qui va voir, qui va très très facilement vers les gens. Comme si c'était une c'est une incarnation de sa cité. Et puis alors moi ce personnage là en fait c'est pas comme ça que je l'aurais imaginé au premier abord complètement, parce que c'est pas le genre de personnage qui m'intéresse forcément, les personnages qui sont trop sympathiques. Et en fait là où il fonctionne, c'est que il est placé dans un environnement où il y a plein d'autres personnages. Et en fait moi j'avoue, j'ai vraiment commencé à écrire et à saisir la narration, pas quand j'avais le personnage principal, mais surtout quand j'avais tous les autres. Et l'idée, c'était d'avoir vraiment toute une galaxie de gens qui sont autour de lui, et qui sont autant, sinon plus importants que lui dans l'histoire et dans la narration. Lui, il est le témoin, c'est lui qui raconte l'histoire, mais quelque part, il raconte même pas son histoire, en tout cas dans les premiers tomes. Il raconte aussi et surtout l'histoire de tous ces gens qui gravitent autour de lui et qui font, finalement, la cité de Gemina.
Du coup, tu parlais de Sienne comme une inspiration. Justement, pour revenir aux villes en elles-mêmes, qui sont pour moi les personnages principaux, d'ailleurs, si vous l'avez dit, puisque les narrateurs en sont l'incarnation, quelles ont été un peu les inspirations pour décrire ces deux villes? Et est-ce qu'il y a d'autres villes imaginaires emblématiques qui vous ont inspiré? Je pense à Ankh-Morpork de Pratchett, par exemple, qui est aussi une ville, ville-personnage. Et moi, j'avais l'impression, entre les oppositions entre les deux villes, il y avait, enfin, ça m'a fait penser à Rive Gauche, Rive Droite à Paris, par exemple, un côté festif, un peu rapide, et un autre peut-être plus structuré. Quelles sont vos inspirations pour avoir construit ces villes?
C'est plus des villes réelles que des villes fictionnelles qui nous ont inspirées. Donc, Guillaume parlait de Sienne. Mais dans Gemina, il y a aussi un peu de Florence.
Il y a voilà, la situation politique, c'est la Florence avant la chute de la République, entre guillemets.
Il y a un peu de Marseille.
Il y a un peu de Marseille. Il y a aussi un peu de San Gimignano, car en Italie, qui est aussi une autre cité-État qui est très particulière. Il y a aussi un peu, pour le côté ruelle très très étroite, ville en 3D, etc., de manière plus étonnante, la citadelle de Kowloon, en fait, donc à Hong Kong, qui était une ville, enfin une espèce de ville dans la ville avec une densité, avec la densité de population la plus forte du monde. Donc il y a un peu de tout ça qui a été mélangé pour avoir une ville un peu tentaculaire et qui par certains côtés, et effectivement, je me suis fait la réflexion après, ressemble à un Clockwork de Terry Pratchett parce qu'elle est très anarchiste en fait dans son organisation. Très anarchique plutôt, pas très anarchiste. Mais c'est après coup que je me suis fait cette réflexion.
Est-ce qu'il y a un travail de recherche documentaire justement sur les villes, leur architecture ou des choses comme ça?
Justement, enfin, on était lors d'un voyage qu'on a découvert Sienne en fait, et on s'est dit que ce serait une ville idéale. Donc Sienne un peu anarchique effectivement, donc l'exact inverse de Deven, où pour le coup, là l'inspiration c'est plus Amsterdam, les villes hanséatiques, tout ce qui est ville du nord de l'Europe, Bruxelles, un peu Londres, un tout petit peu Paris aussi. Et l'idée c'était vraiment de mettre en opposition deux types de sociétés, deux cultures, donc la culture d'Europe du Sud, la culture d'Europe du Nord, qui sont voilà, surtout qu'on est inspiré dans une époque un peu Renaissance. Donc pour le coup on a deux images de la Renaissance qui était très artistique, très culturelle, qu'on avait au sud de l'Europe, et une Renaissance peut-être un peu plus scientifique, un peu plus portée sur la raison, le commerce, des choses comme ça qu'on pouvait avoir le siècle d'or des Pays-Bas ou des choses comme ça, quoi. Donc là pour le coup c'était un peu les deux inspirations auxquelles on est passé en se disant tout ça, ça a donné un espace culturel qui est cohérent. Mais on est parti quand même de deux modèles qui étaient assez opposés, quoi. Et le fait d'avoir ces deux oppositions, on a voulu extrapoler ça dans un univers de fantasy avec ces deux villes qui se répondaient.
D'accord. Merci. Chers adhérents champignons, tout l'équipe de la fin de l'heure, nous avons de vous accueillir dans votre magasin. Nous serons là jusqu'à 20h30. Bonne journée à tous.
Est-ce que vous voulez poser une question? Est-ce qu'il y a un point que vous voulez aborder? On peut peut-être continuer quelques minutes, même si on va ouvrir.
Est-ce qu'on peut parler d'un nouveau genre de littérature?
Pas vraiment, je pense pas, parce qu'on utilise beaucoup les codes de la fantasy et du roman d'aventure, donc c'est pas tout à fait nouveau, quoi.
Ouais,
enfin, j'aurais pas cette prétention, quoi.
Non, on n'a pas la prétention.
Mais
en fait, la seule différence, c'est qu'on se situe un peu quelque part entre la fantasy. On n'est pas les seuls textes hein, là-dessus, c'est pour ça qu'on n'est pas vraiment nouveau. On se situe quelque part entre le roman d'imaginaire et le roman. Et le roman en littérature blanche, enfin du roman contemporain, parce que les enjeux, même si ça se situe dans une ville imaginaire, les enjeux narratifs sont des enjeux de ville comme on pourrait avoir aujourd'hui, en fait, tout simplement.
Est-ce que, David, tu penses que, justement, par rapport au genre, au fait que ce soit pas... ça reste quand même une niche, alors je ne sais pas si tu peux appeler ça comme ça, est-ce que tu penses que, malgré tout, ces deux trilogies... peuvent avoir cette capacité à toucher le plus grand nombre, c'est-à-dire vraiment à ce public qui ne lit que de la littérature, voilà, ou qui ne va lire que vraiment de l'extrême fantasy. Est-ce que finalement, c'est pas une façon aussi de fédérer un peu et de se dire, voilà, comme tu parlais de collaboration, moi j'adore cette idée, ce que tu as dit par rapport aux forges, ce que j'exprime, je trouve que vraiment le travail collectif, il n'y a rien de plus stimulant et finalement c'est merveilleux et c'est comme ça que l'édition, enfin moi je la vois aussi. Est-ce que finalement le but n'est pas aussi un peu toi de fédérer les lecteurs,
oui,
en plus de tes auteurs et de tout le travail que tu fais
Pour revenir à des choses très simples dans le travail éditorial, mais là, peut-être que Claire, en tant qu'éditrice, pourrait en parler aussi, c'est que quand on reçoit des manuscrits, souvent on sent que comme ils ont été écrits par quelqu'un tout seul dans son coin, la personne n'arrive pas à parler à une autre personne. C'est-à-dire la personne est vraiment enfermée en elle-même. Et le travail collaboratif, moi je l'avais vu dans le théâtre de création contemporaine, dans le travail collaboratif, comme on fait l'effort de s'adresser les uns aux autres dans ce mini-cercle qui devient une sorte de projection de l'ensemble de la société, on franchit une étape de clarté, d'adresse à l'autre, qui fait que on va vers le reste du monde. Donc concrètement, par exemple, le travail collaboratif, c'est une manière aussi d'un premier pas vers quelque chose qui nous éloigne de la niche. Les éditions Forge de Vulcain, ce n'est pas un éditeur de niche, c'est un éditeur effectivement indépendant. Donc notre indépendance nous amène à avoir une taille, on est de taille moyenne en fait, mais en termes de ce qu'on propose comme texte, c'est des textes qui sont lisibles par tous. On a certains textes des Forges qui ont rencontré un très large succès, et pour moi, les moments très agréables qu'on a rencontré avec Un long voyage, avec Le sang de la cité, qu'on commence à voir avec Citadin de demain, mais qui est sorti il y a moins longtemps, c'est quand quelqu'un dit « Ah, c'est pas mon genre de littérature, j'ai lu et j'ai adoré, je savais même pas que ça existait. » Donc voilà, et c'est vraiment plus ça. C'est pas une critique de la littérature de niche, c'est juste qu'il y a plein d'éditeurs qui savent très bien le faire, et moi j'ai pas particulièrement quoi que ce soit à apporter dedans, et c'est même pas pour ça que les Forges existent. Donc c'est plutôt moi je fais un travail de réintégration des littératures de genre dans la littérature tout court, qui est un travail que je suis pas seul à faire, que plein d'autres maisons font, mais qui est un travail qui est tout à fait naturel, parce que initialement, encore au 19e siècle, la littérature c'était un seul bloc. Pour toutes sortes de raisons, ça s'est segmenté, mais je pense que maintenant on arrive à une nouvelle phase où ça se désegmente en fait, parce que ça s'était segmenté pour des questions sociales et économiques qui n'existent plus beaucoup maintenant. Et donc voilà, Un long voyage, c'est un gros succès en littérature de l'imaginaire et en littérature générale.
Mais c'est ce que je veux dire, parce que nous, libraires, moi au début, je trouve que là, pour moi, il serait classé aussi en littérature. Et c'est vrai qu'Un long voyage, quand on l'avait reçu, je voulais le décloisonner et vraiment le sortir du genre pour qu'il soit visible aussi et que l'intérêt soit porté.
On voit l'anomalie qui a eu le prix Goncourt. On pourrait presque se dire, Un voyage aurait pu être signé chez Blanche, aurait pu être chez Blanche ou un éditeur blanc. Ça aurait choqué personne, je pense.
Et il y a beaucoup de questions qu'on se pose comme ça en tant que libraire, justement, quand on reçoit des ouvrages, on va les sortir spontanément, parce qu'il nous faut toujours un classement sur le plan des grosses structures. Mais effectivement, de toute façon, aujourd'hui, tout se croise, tous les genres, enfin, y a plein d'ouvrages qui sortent. Il y a aussi beaucoup, en ce moment, le récit fiction. C'est-à-dire, on ne sait plus si c'est un récit ou c'est un roman, et c'est un peu tout en même temps, quoi.
Là, sur l'imaginaire, on est aidé aussi par quelque chose de très simple, c'est que sur les 15 dernières années, en fait, l'imaginaire qui était derrière le récit dramatique classique au cinéma et dans les séries télé est passé devant. C'est-à-dire que maintenant, les plus grandes séries sont techniquement des séries en catégorie imaginaire. C'est-à-dire Game of Thrones, Westworld, toutes ces séries-là, c'est des séries d'imaginaire. Si on regarde le top 10 des séries qui fonctionnent en France, la moitié, c'est des séries d'imaginaire. Donc on est porté aussi par une sorte de mainstreamisation, alors qui est l'écho de plein de choses. C'est l'écho du jeu de rôle dans les années 80, du jeu vidéo des années 90, de Harry Potter à la fin des années 90, du Seigneur des Anneaux au début des années 2000 au cinéma. Tout ça, ça nous porte, en fait.
Ça infiche partout. Peut-être aussi un besoin des gens, finalement, dans cette évasion.
Ah oui.
On dit souvent que la librairie, c'est le reflet de l'actualité. C'est-à-dire, ce qui produit, c'est aussi beaucoup de questionnements. Les gens vont chercher sur des sujets. Et je pense que dans la littérature, qui est à la fois quelque chose de très personnel, voilà, les gens sont en recherche de quelque chose. Et on le voit dans les genres, justement, dans ce que les gens achètent.
Oui, si un jour on vous propose une adaptation en série.
Alors moi je suis pas du tout série, mais après je veux bien prendre le chèque.
Si Netflix va
faire un gros chèque.
Moi je pense que ce serait intéressant de regarder le truc grandir en fait. Ce qui est beau entre guillemets sur la Tour de Garde, c'est que c'est déjà une écriture collaborative. Avoir un nouveau collaborateur, que ce soit sur un autre format ou sur le même, bah ouais, moi je pense que ce serait extrêmement excitant hein, comme nouveau projet.
Ouais. Et développer l'univers à côté comme un auteur avait fait. Alors je sais plus du tout qui c'est qui avait créé un blog à côté où elle parlait de ses personnages extraits du roman et en développant complètement un autre univers pour les faire vivre sur des à côté.
Ah ouais, non.
disons que d'un côté, c'est toujours fascinant, passionnant, tout ça. C'est-à-dire les adaptations. Voilà. Et moi, par exemple, je suis très très lecteur de BD aussi, donc je rêverais que certains de nos romans soient adaptés en BD. Donc il y a vaguement des projets, donc voilà. Mais ce qui est aussi appréciable, c'est que les auteurs-autrices restent concentrés sur faire les meilleurs romans possibles. je parlais du comics comme étant un modèle, et en fait le problème du comics depuis 20 ans qui a été provoqué par le succès de X-Men 1 de Bryan Singer, c'est que maintenant Marvel, la branche BD, n'a plus pour objectif de faire des bonnes BD ou de les vendre, donc ils ont des ventes catastrophiques, s'ils servent juste de réservoir à licence pour le cinéma et la télévision. Et c'est un dévoiement complet, parce que ça veut dire que l'industrie principale est complètement écrasée par les produits dérivés, et c'est problématique, parce que je pense en fait que l'excellence de la lecture, c'est pas la même chose que l'excellence du cinéma, voilà, ça apporte beaucoup, on s'approprie les œuvres d'une manière différente, on les ressent différemment, elles s'inscrivent en nous de manière différente, et aussi il y a quelque chose qu'on ne perçoit pas, c'est que je pense qu'un livre a une espérance de vie beaucoup plus élevée que toutes les adaptations qu'on peut faire, plus élevée que les adaptations BD, cinéma, séries télé, je sais pas, par exemple, même les très bonnes adaptations ou les adaptations très fidèles comme Harry Potter, je sais pas si l'adaptation d'Harry Potter, elle survivra aussi longtemps que le roman. Je pense que le roman, potentiellement, il sera encore là dans 50 ans. Je suis pas sûr que les films seront toujours là dans 50 ans.
Ce sera kitsch, ce sera un film de Noël. Ou
oui, c'est ça.
Ça existe encore à l'époque. Hein, voilà, ouais, c'est...
Il y aura une nouvelle version. Oui.
C'est ça.
C'est très juste, ça.
C'est, voilà, donc... Tout ça fait qu'on est curieux sur ça, ça nous intéresse, c'est stimulant artistiquement, et puis je suis content parce que c'est vrai que quand il y a une adaptation, ça ramène des gens vers le livre, donc tout ça c'est bien, mais Claire et Guillaume, pour moi, c'est d'abord des écrivains parce que c'est d'abord des lecteurs, et donc en fait ils sont concentrés sur produire des œuvres littéraires avec aussi ce respect qu'on doit au lecteur, lectrice, quand on lui dit voilà, c'est vraiment un roman qu'on a fait pour toi, pour que tu le lises. Et c'est pas une étape pour aller vers autre chose, en fait. Si un roman et une série sont substituables l'un à l'autre, il y a eu un problème quelque part. Voilà. Quel que soit le succès après qu'on rencontre. Voilà. Donc c'est effectivement des choses stimulantes, intéressantes, que moi je regarde
en fait,
très très près.
L'idée quand on posait la question, c'est de se dire finalement les personnages continuent d'exister. Dans le sens où, oui, pourquoi pas même laisser un temps de pause et revenir, imaginer revenir.
Ah, bah ça, c'est, ça sera toujours possible, hein, peut-être un jour ou l'autre.
On va pas vous raconter la fin, mais concrètement, l'idée c'est aussi de faire une histoire qui est complète, qui se termine.
On s'interdit évidemment pas d'y revenir dans quelques années, mais uniquement si on a quelque chose de plus à dire, en fait. Et aujourd'hui, on n'en est pas là.
Ce que je dans vos deux romans, c'est que voilà, on a les deux villes. On ne sait absolument pas ce qui se passe autour. C'est vaguement, je crois qu'à un moment, il y a des gens qui avaient mis une colonie, enfin, c'est très vaguement évoqué. Mais j'aime bien ce côté où justement on a ces deux bulles et le reste, on s'en fiche, c'est pas important. Et si vous commenciez à faire de la, entre guillemets, des récits à côté en remplissant, en créant une troisième ville, pourquoi pas, ça briserait un peu ce.
Bah, ça briserait effectivement la chose. De toute façon,
il se passe des choses entre les deux villes, voilà. Et ça va devenir plus évident de tome en tome.
Mais voilà.
C'est aussi l'ouverture au monde et à l'extérieur des personnages qui sont jeunes, qui sont un peu dans leur bulle. Peut-être moins Amalia Knox parce que Gemina est très fermée. Mais au fur et à mesure, on va apprendre des choses sur l'extérieur. Et d'accord. Ça fait partie aussi de cette découverte du monde qui aura lieu sur trois tomes et du développement des personnages. Quoi.
Et qui se fait vraiment par cercle concentrique, c'est-à-dire qu'effectivement, l'idée c'est d'explorer toujours un petit peu plus loin, mais toujours par les yeux du narrateur.
Okay. Et par exemple, Un long voyage, le premier roman de Claire, c'est un récit complet qui n'est pas situé dans le même univers. Et j'aime bien cette idée que ce soit complet, fini, que si on veut retrouver Un long voyage, il faut relire Un long voyage, il ne faut pas aller ailleurs. Alors après, c'est vrai que dans les rencontres en bibliothèque ou en librairie, moi j'ai souvent droit à la remarque du genre « Ah, mais on voudrait en savoir plus sur Un long voyage, est-ce qu'elle va écrire une suite ?» Et voilà, alors, une suite serait compliquée, mais peut-être que dans 10 ans, tu reviendras
romans,
à certains personnages.
La plupart ne donne pas lieu à... Enfin, n'ouvre pas à une suite, en fait. Et c'est vrai que, surtout en fantasy, où on fonctionne beaucoup, en saga, les lecteurs sont souvent dans l'attente de suites. Alors que moi, ce que j'aime proposer, c'est vraiment une œuvre qui soit achevée dans tous les sens du terme, c'est-à-dire tous les fils sont recousus. J'ai pas envie de recouper un morceau, reprendre et ajouter une manche, quoi, en fait. Hein. Je préfère, en fait, rester sur cet aspect fini et complet qu'on a à la fin d'un long voyage et donc j'espère qu'on aura à la fin
de la tour de garde.
Quoi,
Et c'est là, je pense que... On évite un écueil que, en tant que lecteur de comics, je connais bien, mais tous les lecteurs de comics connaissent ça, c'est que les comics, c'est du feuilleton aussi, mais c'est du feuilleton à fin ouverte, sans fin. Ouais. Et en fait, par moment, le fait de jamais finir, c'est-à-dire il y a des comics qui ont 800 épisodes quand même, en fait, ça détruit un peu votre expérience de lecture.
Même
parce que
la mort d'un personnage n'est jamais définitive.
C'est ça, et en fait, au bout d'un moment,
ou
pour relancer un truc, un personnage qui était un personnage très positif devient le méchant. Et en fait, deux, trois fois, ça s'est bien passé, mais en fait, parfois, ça a été un massacre. Et donc, en fait, c'est très dur, quand vous lisez ça, de repenser à ce qu'il y a... ça altère quand même ce que vous avez lu avant.
Voilà. Il vaut mieux rien faire qu'une mauvaise suite.
C'est ça.
Voilà. Là, on en est tous convaincus.
Bah écoutez, merci beaucoup en tout cas pour cette rencontre.
Merci à vous, merci d'être venu.
Si vous n'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, vous restez un petit peu de toute façon pour le dédicace plus traditionnel.
Ça roule.
Ça marche.
Bon, on vous voit tout à l'heure. Merci beaucoup et merci d'être venu.
Eh ben, merci beaucoup.
Merci.